Comme nous vous l'avons dit, ce matin, nous allons d'abord entendre une parole de l'Écriture sainte pour introduire cette conclusion de la retraite, Mahanaïm, de février et début mars 1992. Sur le repas du Seigneur. Alors je lis dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, le verset 15e. 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 15. Grâce soit rendue à Dieu pour son don merveilleux. Darby a traduit pour son don inexprimable. Grâce soit rendue à Dieu pour son don inexprimable. Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te parle? Tu lui aurais demandé à boire, et il t'eût donné de l'eau vive. Ainsi parlait Jésus à la Samaritaine. Le don de Dieu, le don inexprimable, c'est le Fils unique. Dieu nous a tellement aimés qu'il nous a donné son Fils unique, afin que quiconque, c'est vous, c'est moi, c'est tout autre, quiconque croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable. Il ne nous a pas donné quelque chose. Il nous a donné quelqu'un. Et il était lui-même dans ce quelqu'un. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, ne leur imputant pas leur faute. Mais celui qui était sans péché, il l'a fait pécher pour nous, pour que nous, nous devinssions justice de Dieu en lui. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Est-ce que ce n'est pas ineffable? Nous allons, mes bien-aimés, célébrer à la table du Seigneur. Et je vous ai dit que la table du Seigneur, c'était une réalité spirituelle avant tout. Je me souviens qu'au camp de Saint-Brévin-l'Océan en France, avec des étudiants universitaires de plusieurs pays, nous devions célébrer la scène en pleine campagne. Nous n'avions pas de table. Alors nous ne pouvions pas célébrer le repas du Seigneur parce que nous n'avions pas 4 pieds et une planche. Nous avons mis une nappe par terre sur le terrain et c'est là que nous étions autour de la table du Seigneur. Seigneur, nous n'avons pas à chosifier les choses. Mes bien-aimés, nous sommes reconnaissants d'avoir ce qui est nécessaire, d'avoir une chambre haute, toute préparée, d'avoir les chaises, nous pouvons nous réunir, nous sommes commodément assis, et puis nous avons devant les yeux les signes de l'institution du Seigneur. Alors nous allons célébrer à cette table le mystère de l'amour de Dieu qui dépasse vraiment toute expression humaine. L'amour de Dieu. Nous ne pouvons pas en connaître ni la longueur, ni la largeur, ni la hauteur, ni la profondeur, mais il nous a été manifesté en Jésus-Christ. Alors, quand on ne peut pas comprendre, qu'est-ce que l'on fait? On se prosterne. Et l'on adore. Et quand on se prosterne et qu'on adore, nos yeux s'ouvrent sur les réalités spirituelles. Et nous sommes bénis par le Seigneur, non pas pour être seulement bénis nous-mêmes, mais pour être en bénédiction. Je ne peux être en bénédiction aux autres que si je suis béni moi-même. Et si vous voulez être en bénédiction autour de vous, dans vos familles, acceptez qu'aujourd'hui, le Seigneur vous bénisse de sa bénédiction. Et vous verrez des miracles se produire autour de vous. Dieu n'est pas un homme pour nous mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Et même si vous me preniez pour un Balaam, ben c'est Balaam qui a dit cela. Parce que c'était pas de lui que ça sortait. C'était la parole que l'Éternel avait mise dans sa bouche. Si vous ne voulez pas me croire, vous pouvez croire sa parole. Et vous ne serez pas déçus. Oui, nous allons faire mémoire de celui qui fut donné comme l'agneau qui était préconnu dès avant la fondation du monde pour être manifesté à la fin des temps, pour être manifesté au temps propre, à l'heure de Dieu, quand la faillite de l'homme s'est révélée totale, que de pécheur il était devenu transgresseur et qu'il n'y avait plus rien à faire, que les prophètes que Dieu lui avait envoyés avaient été tués, eh bien Dieu a dit, j'ai encore un fils. Et vous savez, ça fait du bien quand on voit dans les regards ou dans le hochement des têtes qu'on est d'accord, qu'il y a communion entre nous, que c'est pas moi qui dis quelque chose d'étrange, mais que ça correspond à ce que vous pensez, parce que ce que vous pensez, c'est ce que vous avez lu dans l'Écriture. Vos pensées ont été formées par la parole de Dieu, et non pas par des traditions humaines. Et c'est tellement encourageant de vivre ces instants qui sont déjà pour moi des instants d'éternité. Oui, nous faisons mémoire d'une personne, du Seigneur Jésus, qui par son sacrifice éternel et parfait, qui a eu lieu au calvaire, a expié dans une obéissance totale à son Père le péché du monde entier. Car il n'est pas seulement mort pour nos péchés, mais comme le dit l'apôtre Jean, pour les péchés du monde entier. Et cette expiation accomplie une fois pour toutes ne peut pas se répéter, comme nous le lisons dans Hébreux chapitre 10, un verset que j'aurais aussi voulu pouvoir vous citer au verset 10, une fois pour toutes, par une seule offrande, faite une fois pour toutes, il a rendu parfait à perpétuité ceux qui sont sanctifiés, ceux qui sont séparés pour le Seigneur Jésus. C'est fait. Jésus l'a dit. Tout est accompli. Ne regardez plus à vous-même, regardez à celui que Dieu vous a donné pour qu'il soit réellement, non pas à côté de vous, mais qu'il soit votre vie. La vie était en Christ et Dieu nous a donné le Christ. Celui qui a le Christ, il a la vie. Mais si vous ne voulez pas du Christ. Vous pouvez être religieux, vous pouvez être soi-disant pratiquant, pratiquer des rites, vous n'avez pas la vie. Ce n'est pas à moi de juger, mais si vous avez la vie, eh bien le Saint-Esprit va rendre témoignage à votre esprit que vous êtes enfant de Dieu. Ou on est enfant de Dieu, ou on ne l'est pas. J'ai été créature de Dieu d'abord, sortie du sein maternel, mais je suis devenu ensuite enfant de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a été donné le droit, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et nous ne sommes pas nés de la chair et du sang, ni de la volonté de l'homme, mais nous sommes nés de Dieu. Et l'apôtre Jean aimait à souligner, mais voyez de quel amour le Père nous a fait don, voyez ce qu'il nous a témoigné, que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Prépare, c'est merveilleux. Et nous le sommes. Nous participons maintenant à la nature divine, ça me bouleverse, c'est incroyable, c'est adorable. Comprenez-vous ce que c'est que l'adoration? Ce sera le sujet de notre prochaine retraite, si on est encore dans ce bas monde, et ce serait plus merveilleux si on pouvait adorer au ciel, au mois de novembre. Mais vous voyez qu'il y a une suite. L'adoration, si nous devons encore cheminer un petit peu, bien nous voudrions connaître ce que c'est que la véritable adoration, qui n'est pas simplement du partage d'expérience, mais qui est cette façon où l'âme se prosterne et où elle déborde. Alors on ne se lasse pas d'un culte pareil, centré sur le repas du Seigneur. Oui, cette expiation, il l'a faite une fois pour toutes, et elle ne peut pas se répéter. Ayant été élevé à la droite de Dieu, Jésus maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il intercède pour nous. Une intercession perpétuelle. Les gens peuvent ne plus prier pour vous. Lui, il dit, je les ai sauvés à un tel prix, je ne vais pas les lâcher. Mes brebis, j'ai donné ma vie pour elles. Elles connaissent ma voix, elles me suivent. Elles ne suivront pas la voix d'un étranger. On peut vous parler du nouvel âge et de tout ce que vous voulez. Laissez tout cela de côté. Vous avez un sentier, alors ne devancez pas le Seigneur, mais suivez-le. Suivez votre Seigneur. Il n'est pas un mercenaire, il vous a prouvé son amour en donnant sa vie pour vous. Alors, notre réponse au culte, vous l'avez compris, c'est donc l'adoration et la louange, l'action de grâce et l'offrande de nous-mêmes dans la foi, et dans l'obéissance à l'adresse du Père, au nom de Jésus. Vous rendez-vous compte, n'est-ce pas? Ce que ça peut être pour le Père de voir que dans ce monde où l'on oublie son Fils, où on méprise son nom, où l'on dit toutes les espèces d'insanités au sujet de la vie de Jésus, où on le fait passer pour n'importe qui, où on l'identifie à tout ce qui fait tellement mal aujourd'hui dans ce qu'on voit dans ce monde, eh bien voilà, Dieu le Père, qui a tant aimé son Fils et qui nous a tant aimé, qui a toujours trouvé son plaisir en lui, eh bien qu'est-ce qui se passe? Il voit quelques rachetés venus de différents endroits de la province, dans ce Canada, dans ce Québec, et qui sont réunis dans la simplicité ou dans cette maison qui a été l'œuvre au fond de cette Marguerite Duville dont vous avez un souvenir ici. Et puis, alors, dans sa grâce, nous pouvons lui rendre culte au nom de Jésus. Notre sacrifice, c'est un sacrifice de louange et de reconnaissance. Mais c'est aussi un engagement. Sacrifice de louange, le fruit des lèvres qui confesse son nom. Alors maintenant, je dirais très simplement, une dernière fois, l'institution de cette Eucharistie telle qu'elle se trouve révélée par l'apôtre Paul qu'il a lui-même reçue du Seigneur. Certains théologiens disent qu'il l'a reçue du Seigneur par l'entremise des apôtres. D'autres pensent qu'il l'a reçue par une révélation directe. Et j'incline plutôt à penser qu'il l'a reçue par une révélation directe. Car c'est lui qui a reçu la révélation de l'Église. Lisez le chapitre 3 des Éphésiens. Et j'ai toujours aimé beaucoup cette petite carmélite de Dijon, Élisabeth de la Trinité, qui est morte à 26 ans de la tuberculose, et qui disait, j'ai lu dans les Éphésiens que Saint Paul avait reçu la révélation du mystère de l'Église. Alors maintenant, je ne veux pas aller chercher ailleurs, je ne veux comme maître que Saint Paul. C'est beau, c'est réjouissant, on va la retrouver. Et oui, vous allez la retrouver de ce peut-être que vous ne pensiez pas avoir. Il y a un brigand, oh, moi je ne veux pas aller au ciel, c'est un brigand. Il y a un brigand qui est sauvé. Et tout ça par l'amour ineffable de Dieu, mais il y a aussi une sœur carmélite. Et puis il y en a d'autres. Je connais, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, quel que soit le degré de connaissance qu'ils aient eu. Celui qui croit connaître quelque chose, il ne connaît rien encore comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Il suffit de lire quelques pages de certaines personnes pour se rendre compte que dans les siècles passés, il y a eu des âmes au sein même des ténèbres et de l'obscurité, de cette sombre nuit, de la noirceur, comme vous dites, il y avait des âmes qui aimaient le Seigneur et qui le louent déjà en attendant la résurrection. Alors, nous lisons. Verset 17. Paul a donné un avertissement aux Corinthiens et il leur dit, en vous donnant cet avertissement, donc de ne pas contester. Ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Ce qui voudrait dire, aujourd'hui, cessez vos retraites. Si c'est pour devenir pire que nous nous retrouvons ici, à peu près 3 fois par année, ça voudrait mieux de cesser. Je prends la parole pour moi. Il devrait y avoir un changement. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. Est-ce que nous venons ici en apportant nos divisions ou notre esprit de schisme en nous disant, oui, il y en a de ces gens qui viennent à ces retraites, mais enfin, ils ne sont pas au point. Ils n'ont pas compris qu'ils n'étaient pas même au point eux-mêmes. Parce que moi, je ne suis pas au point. Parce que Paul dit, je ne suis pas arrivé encore. Je cours. Je ne suis pas encore arrivé à la perfection. Alors, finis cet orgueil de penser que nous sommes au point et que les autres n'y sont pas. Demandons au Seigneur de nous amener plus près de lui. Nous ne voulons pas apporter notre esprit de division. Mais dit, je dois le croire en partie, car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Parce qu'on doit voir une différence. Et il y en a qui sont vraiment approuvés, du Seigneur et dans ce bois. Donc, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, parce que, comme on a vu, ce repas du Seigneur avait dégénéré. Car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre pas, et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour manger et pour boire? Ou méprisez-vous l'Église de Dieu? Et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je en cela? Non, je ne vous loue point. Et alors commence le verset 23. Mais j'aime toujours replacer tout dans son contexte. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Donc, est-ce que c'est l'autorité de Paul ou est-ce que c'est l'autorité du Seigneur? C'est l'autorité du Seigneur. J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, arrêtez-vous sur ce point. Le Seigneur Jésus. C'est toute sa vie qui repasse devant nos yeux. Mais voilà que nous arrivons à la nuit où il fut livré. Dans la nuit où il fut livré, on pourrait s'arrêter sur chaque expression. Tout ce que veut dire la nuit où il fut livré, j'ai essayé de vous en faire un petit schéma, un petit résumé dans vos feuilles vertes. Il prit du pain, le pain qui était là sur la table pour le repas, et après avoir rendu grâce, d'où vient le mot Eucharistie, l'action de grâce. Il le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Alors on pourrait s'arrêter, il le rompit. Alors, rompre le pain, ou la fraction du pain que vous trouvez dans d'autres passages, rappelle ce mémorial. Les premiers disciples rompaient le pain, faisaient la fraction du pain chaque jour dans leur maison, au début, acte 2. Puis au chapitre 20, on voit qu'il y a eu séparation de l'agape et de l'Eucharistie. Alors, à Troas, on se rassemblait le premier jour de la semaine, comme aussi c'était le premier jour de la semaine qu'on amenait ses offrandes au Seigneur, dans 1 Corinthiens 16. Eh bien, il y avait tout cela, le premier jour de la semaine, on se réunissait pour rompre le pain. Et Paul, dans le chapitre 20 des Actes, alors qu'ils étaient réunis pour rompre le pain, il a pourtant fait un discours qui était assez long, et comme la chair est faible, un jeune homme s'est endormi. Peut-être qu'il y en a qui se sont endormis aussi, mais je ne juge personne, personne n'est tombé par la fenêtre. Eutyche, lui, il est tombé par la fenêtre, on l'a relevé mort, alors vous pensez le trouble. Pauvre Paul. S'il avait été un quart d'heure de moins, il ne serait pas mort. Il aurait dû s'arrêter avant. C'est trop long. Mais voilà, c'est l'occasion pour Dieu de manifester sa bonté. Et alors, il y a eu des actions de grâce dans la famille de Dieu. Il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Ça, c'est une parole du Seigneur, c'est lui qui l'a dit. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Nous avons vu ça ce matin. Et il répète, faites ceci en mémoire de moi toute toutes les fois, donc on ne peut pas s'habituer, toutes les fois que vous la boirez, toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain, donc il y a un renouvellement. Pour nous, ce n'est pas une habitude, c'est quelque chose de toujours nouveau, toutes les fois, on ne se lasse pas de cela. Et comme plusieurs le pensent, il n'y a pas de vrai culte d'adoration sans sainte fête. Il manque l'essentiel dans nos cultes, mais je n'entre pas en discussion là-dessus, c'est l'Esprit de Dieu qui doit nous convaincre. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Et oui, c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que, je voudrais encore souligner, nous ne sommes sauvés que par la mort du Seigneur. Son incarnation n'aurait pas suffi. On n'est pas sauvé par son incarnation, on n'est pas sauvé par le sermon sur la montagne, on n'est pas sauvé par toutes les merveilleuses paroles que Jésus a dites, il les a dites, elles sont esprit et vie, mais on est sauvé par sa mort. Si le grain de blé ne meurt, il demeure seul, il fallait qu'il souffrît ces choses, il plut à Dieu de le meurtrir. C'est des passages qui nous confondent, mais c'était là le dessein de Dieu. Alors, toutes les fois, nous annonçons sa mort, parce que c'est par sa mort que nous sommes sauvés. Donc, il y a pour nous un renouvellement, et nous le faisons dans quelle vision? La vision de sa venue, dans l'attente, jusqu'à ce qu'il vienne. Jusqu'à ce qu'il vienne. Donc, ça veut dire que nous sommes renouvelés dans l'attente du Seigneur. Il nous a dit, soyez prêts, veillez, vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Alors, jusqu'à ce qu'il vienne. Donc, on peut distinguer, et c'est avec ça que je termine, trois choses dans ce texte de Paul. Il y a un texte liturgique, où Paul rapporte les paroles du Christ. Il y a un ordre et le sens de la célébration, pain d'abord, puis vin, il nous donne un ordre, et puis l'explication par l'apôtre des paroles du Seigneur, selon ce qu'on appelle la rubrique des évangiles synoptiques. Il y a accord sur les paroles que le Seigneur a prononcées. Donc, mémorial, alliance nouvelle, communion verticale et horizontale, et puis espérance. Espérance. Verset 27. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Nous voulons discerner le corps du Christ. Que chacun donc s'éprouve soi-même, on a vu ce que c'était, et qu'ainsi, il n'est pas dit, et qu'il s'abstienne, mais qu'ainsi il mange. Un incrédule, il ne va pas même s'éprouver lui-même. Il n'est pas intéressé par cela. Mais c'est pour nous, chrétiens, que chacun s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit, sans discerner le repas le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Et puis, c'est pourquoi il y a des malades parmi vous, et qu'un assez grand nombre dort. C'est là ce que je voulais vous rappeler en conclusion de cette retraite, le repas du Seigneur. Je voulais parler en passant du baiser de paix. Et dans l'Église primitive, à plusieurs reprises, nous trouvons ce texte, en tout cas 4 ou 5 fois, baiser de paix, 4 fois, et baiser d'amour. On s'est donné un saint baiser avant de prendre la communion. Et je me souviens toujours, en Belgique, quand on y va, ils nous embrassent 3 fois. C'est un peu trop, semble. Alors je vois un frère qui disait, l'Écriture dit un saint baiser. Ça ne gêne pas qu'il y en ait 3, mais enfin, un saint baiser serait suffisant pour manifester quoi? Qu'on est en accord, qu'on est en commun. Si vous avez peur des microbes, vous pouvez vous donner la main. Mais si vous avez peur des microbes, ne prenez pas la coupe. Mais si vous croyez au Seigneur Jésus, c'est pas à la Sainte Cène que vous attraperez le sida. Croyez-le bien. Il y a un vent de folie parmi les chrétiens aujourd'hui. Et le monde nous regarde. Où est notre foi? Je ne parle pas d'imprudence. Il n'est pas question de faire des imprudents. Mais il est question de penser au Seigneur. Et de nous aimer les uns les autres. Et de ne pas voir toutes les maladies possibles chez son voisin, qu'on appelle son frère, qui pourrait me donner ce mal. Que la grâce du Seigneur soit avec nous. Et que maintenant, vous soyez libres pour l'adoration et la louange. Et avant que nous nous approchions, nous nous donnerons la main. Ou alors, ce saint baiser en Jésus. Amen. Comme nous vous l'avons dit, ce matin, nous allons d'abord entendre une parole de l'Écriture sainte pour introduire cette conclusion de la retraite, Mahanaïm, de février et début mars 1992, sur le repas du Seigneur. Alors je lis dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, le verset 15e, 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 15. Grâce soit rendue à Dieu pour son don merveilleux. Darby a traduit pour son don inexprimable. Grâce soit rendue à Dieu pour son don inexprimable. Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te parle, tu lui aurais demandé à boire et il t'eût donné de l'eau vive. Ainsi parlait Jésus à la Samaritaine. Le don de Dieu, le don inexprimable, c'est le Fils unique. Dieu nous a tellement aimés qu'il nous a donné son Fils unique afin que quiconque, c'est vous, c'est moi, c'est tout autre, quiconque croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Grâce soit rendu à Dieu pour son don ineffable. Il ne nous a pas donné quelque chose, il nous a donné quelqu'un, et il était lui-même dans ce quelqu'un. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, ne leur imputant pas leur faute, mais celui qui était sans péché, il l'a fait péché pour nous, pour que nous, nous devinssions justice de Dieu en lui. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Est-ce que ce n'est pas ineffable? Nous allons, mes bien-aimés, célébrer à la table du Seigneur. Et je vous ai dit que la table du Seigneur, c'était une réalité spirituelle avant tout. Je me souviens qu'au camp de Saint-Brévin-l'Océan en France, avec des étudiants universitaires de plusieurs pays, nous devions célébrer la scène en pleine campagne, nous n'avions pas de table. Alors nous ne pouvions pas célébrer le repas du Seigneur, parce que nous n'avions pas 4 pieds et une planche. Nous avons mis une nappe par terre sur le terrain, et c'est là que nous étions autour de la table du Seigneur. Nous n'avons pas à chosifier les choses. Mes bien-aimés, nous sommes reconnaissants d'avoir ce qui est nécessaire, d'avoir une chambre haute, toute préparée, d'avoir les chaises, nous pouvons nous réunir, nous sommes commodément assis, et puis nous avons devant les yeux les signes de l'institution du Seigneur. Alors nous allons célébrer à cette table le mystère de l'amour de Dieu qui dépasse vraiment toute expression humaine. L'amour de Dieu. Nous ne pouvons pas en connaître ni la longueur, ni la largeur, ni la hauteur, ni la profondeur, mais il nous a été manifesté en Jésus-Christ. Alors quand on ne peut pas comprendre, qu'est-ce que l'on fait? On se prosterne et l'on adore. Et quand on se prosterne et qu'on adore, nos yeux s'ouvrent sur les réalités spirituelles. Et nous sommes bénis par le Seigneur, non pas pour être seulement bénis nous-mêmes, mais pour être en bénédiction. Je ne peux être en bénédiction aux autres que si je suis béni moi-même. Et si vous voulez être en bénédiction autour de vous, dans vos familles, acceptez qu'aujourd'hui, le Seigneur vous bénisse de sa bénédiction. Et vous verrez des miracles se produire autour de vous. Dieu n'est pas un homme pour nous mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Et même si vous me preniez pour un Balaam, ben c'est Balaam qui a dit ça. Parce que c'était pas de lui que ça sortait. C'était la parole que l'Éternel avait mis dans sa bouche. Si vous ne voulez pas me croire, vous pouvez croire sa parole et vous ne serez pas déçus. Oui, nous allons faire mémoire de celui qui fut donné comme l'agneau qui était préconnu dès avant la fondation du monde, pour être manifesté à la fin des temps, pour être manifesté au temps propre, à l'heure de Dieu, quand la faillite de l'homme s'est révélée totale, que de pécheur il était devenu transgresseur, et qu'il n'y avait plus rien à faire, que les prophètes que Dieu lui avait envoyés avaient été tués, eh bien Dieu a dit, j'ai encore un fils. Et vous savez, ça fait du bien quand on voit dans les regards ou dans le hochement des têtes, qu'on est d'accord, qu'il y a communion entre nous, que c'est pas moi qui dis quelque chose d'étrange, mais que ça correspond à ce que vous pensez, parce que ce que vous pensez, c'est ce que vous avez lu dans l'Écriture. Vos pensées ont été formées par la parole de Dieu, et non pas par des traditions humaines. Et c'est tellement encourageant de vivre ces instants qui sont déjà pour moi des instants d'éternité. Oui, nous faisons mémoire d'une personne, du Seigneur Jésus, qui par son sacrifice éternel et parfait, qui a eu lieu au calvaire, a expié dans une obéissance totale à son Père le péché du monde entier. Car il n'est pas seulement mort pour nos péchés, mais comme le dit l'apôtre Jean, pour les péchés du monde entier. Et cette expiation accomplie une fois pour toutes ne peut pas se répéter, comme nous le lisons dans Hébreux chapitre 10, un verset que j'aurais aussi voulu pouvoir vous citer au verset 10, une fois pour toutes, par une seule offrande, faite une fois pour toutes, il a rendu parfait à perpétuité ceux qui sont sanctifiés, ceux qui sont séparés pour le Seigneur Jésus. C'est fait. Jésus l'a dit. Tout est accompli. Ne regardez plus à vous-même, regardez à celui que Dieu vous a donné pour qu'il soit réellement, non pas à côté de vous, mais qu'il soit votre vie. La vie était en Christ et Dieu nous a donné le Christ. Celui qui a le Christ, il a la vie. Mais si vous ne voulez pas du Christ, vous pouvez être religieux, vous pouvez être soi-disant pratiquant, pratiquer des rites, vous n'avez pas la vie. Ce n'est pas à moi de juger, mais si vous avez la vie, eh bien le Saint-Esprit va rendre témoignage à votre esprit que vous êtes enfant de Dieu. Ou on est enfant de Dieu, où on ne l'est pas. J'ai été créature de Dieu d'abord, sortie du sein maternel, mais je suis devenu ensuite enfant de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a été donné le droit, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et nous ne sommes pas nés de la chair et du sang, ni de la volonté de l'homme, mais nous sommes nés de Dieu. Et l'apôtre Jean aimait à souligner, mais voyez de quel amour le Père nous a fait don, voyez ce qu'il nous a témoigné, que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Prépare Seigneur les yeux. Et nous le sommes. Nous participons maintenant à la nature divine, ça me bouleverse, c'est incroyable, c'est adorable. Comprenez-vous ce que c'est que l'adoration? Ce sera le sujet de notre prochaine retraite, si on est encore dans ce bas monde. Et ce serait plus merveilleux si on pouvait adorer au ciel, au mois de novembre. Mais vous voyez qu'il y a une suite. L'adoration, si nous devons encore cheminer un petit peu, bien nous voudrions connaître ce que c'est que la véritable adoration, qui n'est pas simplement du partage d'expériences, mais qui est cette façon où l'âme se prosterne et où elle déborde. Alors on ne se lasse pas d'un culte pareil, centré sur le repas du Seigneur. Oui, cette expiation, il l'a faite une fois pour toutes, et elle ne peut pas se répéter. Ayant été élevé à la droite de Dieu, Jésus maintenant, qu'est-ce qu'il fait ? Il intercède pour nous, une intercession perpétuelle. Les gens peuvent ne plus prier pour vous. Lui, il dit, je les ai sauvés à un tel prix, je ne vais pas les lâcher. Mes brebis, j'ai donné ma vie pour elles. Elles connaissent ma voix, elles me suivent. Elles ne suivront pas la voix d'un étranger. On peut vous parler du nouvel âge et de tout ce que vous voulez. Laissez tout cela de côté. Vous avez un sentier, alors ne devancez pas le Seigneur, mais suivez-le. Suivez votre Seigneur. Il n'est pas un mercenaire. Il vous a prouvé son amour en donnant sa vie pour vous. Alors, notre réponse au culte, vous l'avez compris, c'est donc l'adoration et la louange, l'action de grâce et l'offrande de nous-mêmes dans la foi et dans l'obéissance à l'adresse du Père au nom de Jésus. Vous rendez-vous compte, n'est-ce pas? Ce que ça peut être pour le Père de voir que dans ce monde où l'on oublie son Fils, où on méprise son nom, où l'on dit toutes ces espèces d'insanités au sujet de la vie de Jésus, où on le fait passer pour n'importe qui, où on l'identifie à tout ce qui fait tellement mal aujourd'hui dans ce qu'on voit dans ce monde. Eh bien voilà, Dieu le Père, qui a tant aimé son Fils et qui nous a tant aimés, qui a toujours trouvé son plaisir en lui, eh bien qu'est-ce qui se passe? Il voit quelques rachetés venus de différents endroits de la province, dans ce Canada, dans ce Québec, et qui sont réunis dans la simplicité ou dans cette maison qui a été l'œuvre au fond de cette Marguerite Diouville dont vous avez un souvenir ici. Et puis, alors, dans sa grâce, nous pouvons lui rendre culte au nom de Jésus. Notre sacrifice, c'est un sacrifice de louange et de reconnaissance. Mais c'est aussi un engagement. Sacrifice de louange, le fruit des lèvres qui confesse son nom. Alors maintenant, je dirai très simplement, une dernière fois, l'institution de cette Eucharistie telle qu'elle se trouve révélée par l'apôtre Paul qu'il a lui-même reçue du Seigneur. Certains théologiens disent qu'il l'a reçue du Seigneur par l'entremise des apôtres, d'autres pensent qu'il l'a reçue par une révélation directe. Et j'incline plutôt à penser qu'il l'a reçue par une révélation directe, car c'est lui qui a reçu la révélation de l'Église. Lisez le chapitre 3 des Éphésiens. Et j'ai toujours aimé beaucoup cette petite carmélite de Dijon, Élisabeth de la Trinité, qui est morte à 26 ans de la tuberculose, et qui disait, j'ai lu dans les Éphésiens que saint Paul avait reçu la révélation du mystère de l'Église. Alors maintenant, je ne veux pas aller chercher ailleurs, je ne veux comme maître que saint Paul. C'est beau, c'est réjouissant, on va la retrouver. Et vous allez en retrouver de ce peut-être que vous ne pensiez pas avoir. Il y a un brigand, oh, moi je ne veux pas aller au ciel, c'est un brigand. Il y a un brigand qui est sauvé. Et tout cela par l'amour ineffable de Dieu. Mais il y a aussi une sœur carmélite. Et puis, il y en a d'autres. Je connais, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent.